Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
C'est un soulagement pour toutes les victimes, un laboratoire a été reconnu responsable, a été condamné. Donc je suis extrêmement heureux de ce long parcours qui aboutit à une condamnation.
Condamnation des laboratoires Servier plus de 10 ans après le scandale du Mediator, un médicament responsable de centaines de morts, épilogue d'un très long combat judiciaire pour les victimes et leurs familles. Il faut fermer d'urgence toutes les écoles de Seine-Saint-Denis. Nous entendrons l'appel du député Jean-Christophe Lagarde alors que le nouveau protocole sanitaire est entré en vigueur aujourd'hui dans les 19 départements semi-confinés. Au moindre cas, désormais, on ferme la classe. Les écoles se vident et les hôpitaux débordent. La troisième vague est d'ores et déjà pire que la deuxième dans les services de réanimation. En attendant de prendre de nouvelles mesures, Emmanuel Macron mise tout sur la vaccination. Visite cet après-midi d'un centre d'appel pour aider les personnes âgées à prendre rendez-vous. Il est loin de faire l'unanimité. Le projet de loi climat est arrivé à l'Assemblée nationale où plusieurs visions de l'écologie se font face. Dans ce journal également, nous irons aux États-Unis où le procès du policier accusé du meurtre de George Floyd a réellement commencé par la diffusion des images de l'agonie de la victime. La reprise du trafic dans le canal de Suez, le porte-conteneur qui bloquait le passage a enfin été débloqué. Et puis quand une résidente de maison de retraite vole un camion de pompiers, ça donne une histoire étonnante que l'on vous racontera à la fin de ce journal. La météo, elle restera estivale demain avec du beau temps, du soleil et des températures qui s'envolent, sauf au bord de la Méditerranée, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a refranchi ce soir le seuil symbolique des 6000 points, plus 0,45% à 6015 points. Et tous les détails à venir dans Top à Wall Street avec Didier Hamo de Boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. Il sera possible à partir de demain de réserver son billet de train pour les vacances de cet été. Pour en parler, Aurélien Fleureau reçoit ce soir Alain Krakowicz, le directeur général de Voyage SNCF. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est le pire scandale médical de ces dernières décennies. Le Mediator, cet antidiabétique prescrit comme coupe-faim pendant 33 ans. Résultat, des centaines de morts malgré les alertes répétées sur la dangerosité de ce médicament. 6500 parties civiles s'étaient constituées pour le procès de son fabricant, les laboratoires Servier, accusés d'avoir sciemment dissimulé les effets secondaires dévastateurs du Mediator. Accusés et depuis aujourd'hui condamnés pour tromperie aggravée et homicides et blessures involontaires. Le groupe pharmaceutique devra verser 2,7 millions d'euros d'amende. L'Agence nationale de sécurité du médicament devra, elle, s'acquitter de plus de 300 000 euros. Maître Jean-Christophe Coubrys est l'avocat de plus de 2000 parties civiles. Il est ce soir satisfait de ce jugement.
C'est un soulagement pour toutes les victimes. Un laboratoire a été reconnu responsable, a été condamné. Donc je suis extrêmement heureux de ce long parcours qui aboutit à une condamnation. La sanction déjà d'un laboratoire, c'est important. Les sommes qui ont été allouées, même si elles ne sont pas aussi élevées que ce que l'on souhaiterait, elles sont cohérentes. Le temps aujourd'hui, il est à la satisfaction de la condamnation, même si les peines et les sanctions pénales sont aussi modérées. Mais c'est peut-être ça aussi, une justice modérée, cela a un sens. C'est à nous de faire passer ce message auprès des victimes. Le combat était tellement difficile de toute façon.
Gladys Laffitte, c'est vous qui avez recueilli cette réaction de Maître Coubrys. À la fois, on l'a entendu soulagé et quelque peu déçu face à la légèreté des peines prononcées. Pourtant, Gladys, le tribunal a eu des mots très durs et sans ambiguïté contre les laboratoires Servier.
Oui, ils ont commis une fraude d'une ampleur considérable et inédite, je cite. Ils ont fragilisé la confiance dans le système de santé parce qu'ils connaissaient les risques du Mediator depuis de très nombreuses années. Et pourtant, les laboratoires Servier ont maintenu sa commercialisation envers et contre tout, a dit la présidente. Résultat, ils ont trompé les consommateurs de ce médicament. Les mots ont été durs aussi envers l'agence du médicament qui n'a pas joué son rôle de police sanitaire. Sa directrice, Christelle Ratigné-Carbonneil, prend acte de ce jugement.
Ceci a été bien jugé et nous avons concouru à la manifestation de la vérité et de pouvoir assumer notre responsabilité d'établissement public. La loi de 2011 a créé l'agence, une agence qui est différente, pour qu'en effet un tel drame ne puisse se reproduire.
Alors hormis ces condamnations à des amendes pénales, les laboratoires Servier vont devoir verser plus de 180 millions d'euros d'indemnisation aux victimes, tout comme l'ex-bras droit de Jacques Servier qui devra lui aussi payer des millions d'euros aux parties civiles. Il a été condamné à 4 ans de prison avec sursis.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.
Écoutez le monde changer.
Europe Soir. Le 22-22-30.
C'est l'autre grand titre ce soir, le nouveau protocole sanitaire qui oblige depuis aujourd'hui les classes à fermer immédiatement dès qu'un cas positif est détecté. Mesure qui s'applique dans les écoles, collèges et lycées, dans les 19 départements semi-confinés. Et parmi eux, il y a la Seine-Saint-Denis, là où le virus circule le plus actuellement en France. Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI et député de Seine-Saint-Denis, a écrit à Emmanuel Macron pour lui demander de fermer dès à présent tous les établissements de son département.
Dans les différentes parties du département de la Seine-Saint-Denis, un des plus touchés de France, il y a plus de circulation virale dans les écoles que dans la population. Les écoles sont en train de devenir un accélérateur de la circulation du virus. Je comprends parfaitement et je partage le fait que l'école soit indispensable à nos enfants. Mais faire en sorte que pendant un mois, on casse les chaînes de contamination scolaire me paraît indispensable et urgent. Et j'ai écrit au président de la République en lui disant « Si vous laissez le virus continuer à circuler dans les écoles pour ne pas faire perdre 8 jours d'enseignement aux enfants, alors vous prenez le risque majeur que les enfants rentrant chez eux contaminent leur famille. Or, le système de réanimation est déjà explosé. Ça nous envoie droit dans le mur. Il est temps, Monsieur Macron, que vous arrêtiez ce mécanisme qui est mortifère. »
Jean-Christophe Lagarde, joint par Johanna Chabas pour Europe 1. La situation dans les écoles est l'un des indicateurs scrutés de près par l'exécutif. Il y a aussi la pression hospitalière qui a franchi ce soir un nouveau seuil. 4974 malades du Covid sont ce soir en réanimation. Le pic de la deuxième vague est désormais dépassé. Ce n'est plus tenable, alerte des responsables médicaux d'hôpitaux franciliens qui affirment se préparer à trier les patients, autrement dit à choisir entre deux malades à sauver. C'est donc avec tous ces éléments en tête qu'Emmanuel Macron va devoir trancher dans les prochains jours, renforcer les mesures ou maintenir le statu quo. En attendant, le chef de l'État mise tout sur la vaccination. Il s'est rendu cet après-midi à Créteil, en banlieue parisienne, pour échanger avec les opérateurs d'une plateforme d'appel, Jean-Rémy Baudot.
Oui, une plateforme qui appelle notamment les personnes de plus de 75 ans non vaccinées. C'est le dispositif du « Aller vers » dont avait parlé Emmanuel Macron la semaine dernière. « Aller vers » une partie de la population qui serait éventuellement loin des systèmes de soins qui n'auraient pas de médecin traitant ou de référent. Emmanuel Macron a donc pu écouter cet après-midi les échanges entre les opérateurs et les patients. L'enjeu est de faire de la pédagogie, d'expliquer comment obtenir le plus rapidement possible un rendez-vous. À Créteil, 24 opérateurs se relaient 7 jours sur 7. Un numéro vert sera mis en place mercredi pour joindre ce service directement. L'objectif demandé par le président au patron de la Sécu, c'est d'ici un mois d'avoir vacciné 80% des plus de 75 ans. Car oui, la vaccination, c'est la solution mise en avant par l'exécutif. Celle qui aurait dû permettre de ne pas vivre une troisième vague. La réalité, on le voit, elle est tout autre. Mais ça reste le seul moyen de surmonter durablement cette épidémie. Et c'est pourquoi l'exécutif veut accélérer.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Dans ce contexte de troisième vague, le ministre de l'économie exclut d'allonger la liste des commerces autorisés à rouvrir dans les 19 départements semi-confinés. Par ailleurs, Bruno Le Maire écarte l'idée de taxer l'épargne des Français qui a beaucoup augmenté depuis le début de la crise. On parle là de plus de 200 milliards d'euros sur les comptes en banque. Le ministre se dit plutôt favorable à un coup de pouce fiscal pour inciter les grands-parents à soutenir leurs petits-enfants en leur versant quelques milliers d'euros. Notez qu'Elisabeth Borne sera demain matin l'invitée de la matinale d'Europe 1. La ministre du Travail répondra à partir de 8h15 aux questions de Sonia Mabrouk. Et puis le conseil scientifique s'en remet à l'exécutif sur la tenue des régionales en juin, mais préconise prudence et aménagement. Les experts proposent un étalement des élections sur plusieurs jours, ainsi que la vaccination des membres des bureaux de vote. Une reprise de l'épidémie sous forme de cluster après le scrutin n'est pas exclue, prévient le conseil scientifique.
Europe Soir, Julien Pierce.
Ce sera peut-être le dernier grand texte du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le très contesté projet de loi climat et résilience est depuis cet après-midi débattu à l'Assemblée nationale. 65 articles traduisant en partie les propositions de la Convention citoyenne. Près de 7000 amendements ont été déposés, preuve des clivages que ce texte cristallise, Claudia Bertram.
Oui, ce sont des approches de l'écologie différentes qui se font face dans l'hémicycle. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a défendu à la tribune une loi d'écologie pratique de bon sens, dit-elle.
Cette loi, c'est une véritable bascule culturelle globale qui fera de l'écologie une réalité du quotidien pour assurer l'avenir du pays en responsabilité, en s'attelant à ce qu'il y a de plus ordinaire, de plus basique, mais aussi de plus crucial, nos modes de vie.
Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, s'est d'emblée opposé à la loi.
Elle ne comporte pas les mesures concrètes indispensables qui sont à notre portée et que vous avez décidé de ne pas prendre.
Le texte du gouvernement est vivement critiqué par la gauche, les écologistes, les ONG, qui fustigent son manque d'ambition et le détricotage des mesures de la Convention. Des critiques que relaie la députée écologiste Delphine Bateau.
Le projet de loi tourne le dos aux 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Elle tourne le dos aux attentes et aux exigences de la jeunesse qui a manifesté encore hier. Je me bats pour une vraie loi climat. Je me bats pour un débat sans filtre aussi.
Des parlementaires écologistes ont lancé leur propre débat en parallèle sur le réseau social Twitch. La droite compte, elle, monter au créneau contre ce qu'elle considère être une écologie punitive pour défendre son propre logiciel écologique.
Claudia Bertram à l'Assemblée nationale pour Europe 1. Un vent de révolte chez Amazon. Environ 2000 salariés allemands de l'entreprise américaine ont entamé aujourd'hui une grève de 4 jours pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. Aux États-Unis, les salariés d'un entrepôt Amazon dans l'Alabama attendent le résultat d'un vote historique. Pour ou contre la création d'un syndicat, ce serait le premier à voir le jour chez le géant du commerce en ligne dans son pays d'origine. Prenons maintenant la direction de Minneapolis, où se tient le procès du policier blanc jugé pour la mort de George Floyd. On se souvient tous de ces images terribles, 8 minutes 46 secondes pendant lesquelles l'accusé, Derek Chauvin, a maintenu son genou sur le cou de sa victime suffocante. Un calvaire qui a bouleversé le monde entier et entraîné le mouvement Black Lives Matter. Et bien après 3 semaines consacrées à la sélection des jurés, les débats de fond ont pu commencer. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Temps fort de cette journée, la diffusion de cette sinistre vidéo.
Oui, elle a été diffusée en intégralité dès ce matin par le procureur. Nous allons vous prouver que M. Chauvin n'est pas innocent, explique Jerry Blackwell. Il a trahi son serment avec un usage excessif et déraisonnable de la force sur le corps de M. Floyd. Derek Chauvin est présent dans la salle d'audience. On l'a vu regarder cette vidéo ce matin, ne montrant aucune émotion et prenant quelques notes sur un carnet. Les jurés restent anonymes, ils n'apparaissent pas à l'écran alors que le procès est diffusé dans tout le pays. L'avocat de Derek Chauvin va lui tenter au cours des prochaines semaines de prouver que George Floyd n'est pas mort à cause de cette arrestation, mais après une overdose, il demande aux jurés de s'en tenir aux faits. Il n'y a pas de cause politique ou sociale dans cette salle d'audience, souligne Eric Nelson. Les preuves sont bien plus importantes que 9 minutes et 29 secondes. Les proches de George Floyd se sont réunis ce matin devant le palais de justice de Minneapolis. L'avocat de la famille parle d'un procès historique pour l'Amérique. Un rassemblement conclu par un geste symbolique. Ils se sont agenouillés tous ensemble pendant près de 9 minutes.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. En Birmanie, les manifestations continuent malgré le bain de sang de ce week-end. Plus de 100 morts, dont plusieurs enfants, samedi, journée la plus meurtrière depuis le coup d'État militaire. Les soldats de la junte ne se contentent plus de tirer à balles réelles. Des bombardements aériens ont eu lieu dans le sud-est du pays, poussant 3000 Birmans à franchir en urgence la frontière thaïlandaise. Une escalade condamnée à l'instant ce soir par la France qui dénonce une violence aveugle et meurtrière. C'est la fin d'un feuilleton qui aura duré près d'une semaine, écouté des dizaines de milliards à l'économie mondiale. Le trafic maritime dans le canal de Suez a enfin pu reprendre car l'Ever Given, ce porte-conteneur qui bloquait totalement le passage, a été remis à flot tout à l'heure, Clément Le Saffre.
Oui, enfin, j'ai envie de dire, après avoir bloqué le canal de Suez pendant 6 jours, le porte-conteneur de 400 mètres de long a rallumé ses moteurs cet après-midi. Il a fallu dégager quand même 30 000 mètres cubes de sable pour le sortir de la rive et l'aide de 13 remorqueurs pour le remettre dans le sens de la marche. Le trafic a donc repris, hein, une libération pour les quelques 400 cargos bloqués de part et d'autre du canal. Il faudra 3 jours pour qu'ils puissent tous traverser et pour lisser le trafic, mais un peu plus longtemps pour que le transport maritime mondial s'en remette, selon Paul Touré, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime.
Ça a des conséquences un petit peu, notamment pour les conteneurs qui sont très cadencés, sur des départs qui ont peut-être été retardés, des détournements vers l'Afrique du Sud, le contournement. Donc on est sans doute sur un petit désordre dans la conteneurisation d'au moins 2 ou 3 semaines. Ça désorganise quelque chose qui est peut-être trop organisé, c'est-à-dire cette dépendance à un approvisionnement très régulier pour des choses qui sont quand même fabriquées à l'autre bout du monde.
Et à l'image du gigantisme de l'Ever Given, cette semaine perdue a engendré des pertes colossales pour l'économie mondiale. Chaque jour de blocage a coûté entre 5 et 9 milliards d'euros.
Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1. On termine ce journal avec une histoire pas banale. Elle a pour point de départ le vol d'un camion de pompiers ce week-end dans l'Ain, près de Villefranche-sur-Saône. Mais ce qui interpelle surtout dans cette affaire, Justin Morin, c'est l'identité de la voleuse.
Oui, effectivement, c'est une dame de 65 ans, résidente d'une maison de retraite. Samedi soir, les pompiers s'y rendent pour une intervention en urgence. Ils se garent à l'intérieur de l'établissement et, comme souvent, laissent les clés sur le contact. Sauf que ce soir-là, cette résidente de 65 ans semble bien décidée à quitter les lieux. Quand les pompiers reviennent, leur camion a disparu. Elle s'est échappée à bord du camion rouge et file sur une départementale vers son ancien domicile. Les gendarmes sont appelés en renfort pour la prendre en chasse. Alors heureusement, toutes ces ambulances sont géolocalisées, donc ils n'ont aucun mal à la retrouver. Mais la fugitive parcourt quand même une quinzaine de kilomètres avant d'être stoppée. Le but, c'était surtout de ne blesser personne. La résidente a ensuite été prise en charge, d'abord à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône pour un état dépressif. Puis elle a été raccompagnée dans sa chambre à la maison de retraite.
Merci Justin Morin. C'est désormais officiel, le nom de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing sera accolé à ceux des musées d'Orsay et de l'Orangerie à Paris. Annonce du ministère de la Culture après l'aval de l'Assemblée nationale. Décédé en décembre dernier, l'ex-chef de l'État avait décidé en 1977 de transformer la gare d'Orsay en musée consacré aux arts du 19e siècle. Et puis en sport, le 15 de France de rugby glisse à la 5e place du classement mondial après sa défaite contre l'Écosse dans le tournoi des 6 nations. Classement toujours dominé par l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, et les All Blacks néo-zélandais. On passe à la météo, Anissa Haddadi. Au programme demain, une nouvelle belle journée.
C'est dans le sud, un peu comme aujourd'hui, hein, du golfe du Lion jusqu'à la Côte d'Azur, que les entrées maritimes apportent de la grisaille toute la journée. Des nuages bas qui seront donc tenaces et puis le vent d'OTAN qui souffle toujours jusqu'à 60 km/h. Rien à signaler donc à part ces quelques nuages au bord de la Grande Bleue. Les températures, elles sont plus fraîches en Provence demain matin avec 2 à 5 degrés. Nous aurons un léger retour des gelées matinales dans les Ardennes. 5 à 10 degrés partout ailleurs, 5 pour Lille, 6 à Nantes, 8 à Bastia et Paris et 11 degrés à Biarritz demain matin. Dans l'après-midi, il fait un peu plus frais dans le sud avec 17 degrés seulement à Perpignan, 18 à Montpellier et Dunkerque, 19 degrés à Nice, 20 pour Marseille et Brest, 22 degrés à Dijon et Lille, 24 pour Paris, Lyon et Metz, 25 degrés à Limoges, 26 pour Bordeaux et 27 degrés la maximale pour Mont-de-Marsan.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamot de boursier.com, suivi de l'interview Echo. Il sera possible à partir de demain de réserver son billet de train pour les vacances de cet été. Pour en parler, Aurélien Fleureau reçoit dans quelques minutes Alain Krakowicz, le directeur général de voyage SNCF. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h17 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street.
Retrouvez Top à Wall Street avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Toutes les infos de la bourse avec Didier Hamot de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street débute la semaine sur une note encore hésitante en raison de la nouvelle baisse des valeurs technologiques.
Oui, une séance assez banale finalement. Le Dow Jones plus 0,3%, 33 172 points. Le Nasdaq effectivement encore en baisse, toujours le même schéma, moins 0,6% avec ses valeurs de technologie toujours lourdes, 13 060 points sur le Nasdaq. Et puis les déboires d'un fonds spéculatif américain, Archegos Capital, ont contribué aussi à plomber les valeurs financières. On a toutes les banques en baisse, JP Morgan moins 1,6%, Citigroup moins 2%, Bank of America, je vais y arriver, moins 1%, et puis Wells Fargo, moins 3%. En fait, les valeurs de technologie sont en baisse, mais pas vraiment prononcées. Il y a de petits replis sur Tesla, moins 1%, 611 dollars, Microsoft, moins 0,5%. On est pratiquement stable sur Apple, 121,40 dollars, et IBM perd 0,4%. Il y a même quelques hausses, Google, plus 1%, et Facebook, plus 2,6%, à 290 dollars. Les taux montent encore. Le taux à 10 ans est à 1,70. Il monte toujours sur les craintes de résurgence de l'inflation. C'est toujours ce qui inquiète les marchés quand même sur le fond. Et puis le pétrole se stabilise, il est plus calme. Après, évidemment, le déblocage du canal de Suez, on remonte à 61,50 $. Le baril WTI, c'est une hausse de 1%. En attendant la réunion de l'OPEP, ce sera pour jeudi. L'euro revient en arrière, encore en baisse. 1,1760, il est faible face au dollar.
La bourse de Paris a quant à elle terminé en hausse, de retour juste au-dessus de la barre des 6000 points sur le CAC 40.
6015 points, oui, une hausse de 0,45%, une petite hausse, quand même, avec des valeurs parmi les moins sensibles aux conditions sanitaires qui se distinguent. On a par exemple les jeux vidéo. avec Guillemot qui monte encore de 8,7% après les résultats financiers impressionnants du groupe Guillemot. Un bénéfice opérationnel de 19 millions d'euros en 2020. Et puis les groupes de conseil Internet, on a SQLI plus 4,5%. Les opérateurs télécoms aussi qui remontent. Iliad plus 2%. Orange plus 1% à 10,60 €. Puis bien sûr les pétrolières puisque ça va mieux du côté du baril. Valourec plus 3%, Total plus 1,5%, 39,75 €.
Exception du jour, le secteur bancaire qui, comme aux États-Unis, a nettement reculé en clôture.
Oui, on revient au problème initial, effectivement, les mésaventures du fonds américain Archegos Capital qui détenait d'importantes positions boursières. Eh bien, ça fait plonger tout le secteur financier. Ce sont des ventes de précaution à Paris parce que ces banques françaises ne sont pas particulièrement impliquées dans l'histoire, mais par prudence, la Société Générale perd 2,5%, BNP moins 2%, le Crédit Agricole moins 0,7%. Donc un secteur quand même plombé aujourd'hui. Le Crédit Agricole termine à 12,15 €. Les autres places financières en Europe sont plutôt calmes. Le DAX plus 0,5% à Francfort. On est stable à Madrid, stable à Bruxelles. Milan plus 0,10%. Et donc le CAC 40 à Paris plus 0,45% quand même. 6015 points.
Merci beaucoup Didier Hamaud de boursier.com et à demain Didier. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Aurélien Fleureau, c'est à vous.
Bonsoir Alain Krakowicz.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général de Voyages SNCF. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Si j'ai eu envie de vous entendre, c'est que demain, eh bien, ce sera le top départ des ventes de billets de train pour cet été. Alors, bien sûr, il y a encore de nombreuses incertitudes, mais cela reste un moment important dans l'année de la SNCF.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une période un peu spéciale aujourd'hui avec toutes les contraintes de déplacement, mais pour autant, pour nous et pour nos clients surtout, c'est important de pouvoir se projeter et de profiter de cette ouverture des ventes demain, cette journée spéciale qui permettra de réserver le plus tôt possible ces billets pour tout l'été.
Alors un peu comme pour Noël, c'est parfois une date que l'on coche sur son calendrier pour être sûr d'avoir des bons prix très vite, plus de choix dans les horaires. Là aussi, ce sera encore possible malgré, encore une fois, ces incertitudes du moment.
Oui, on se place vraiment dans cette perspective. L'intérêt pour les voyageurs, c'est de réserver le plus tôt possible, donc dès demain. Ça leur permet d'avoir les meilleurs prix, vous l'avez dit, de choisir aussi son confort. Et puis en plus, de le faire en toute sérénité, puisque je le rappelle, les échanges remboursements sont sans frais jusqu'à J-3, et ça pour toute la période jusqu'à fin août. Donc il n'y a aucun risque. Et nos clients ont tout intérêt à réserver dès demain.
Donc remboursement sans frais jusqu'à J-3, jusqu'à la fin août. Et d'ailleurs, on peut dire un mot de la période actuelle. Là, en ce moment, vous avez fait sauter ce J-3. Hein. C'est encore plus souple.
Oui, puisque là, on est dans une période de grande incertitude. C'est sûr que c'est compliqué pour nos clients de se positionner dans les jours qui viennent. Donc là, la période actuelle des quelques semaines, on espère, de confinement, de restrictions sanitaires, fait qu'on a là une souplesse totale et la possibilité d'échanger et de rembourser jusqu'au dernier moment.
Alors, avant de revenir sur cette période actuelle et ses conséquences, peut-être un mot de Ouigo. Alors là, c'est même quasiment jusqu'à la fin de l'année que l'on pourra réserver ces Ouigo, avec là aussi une promesse de petits prix et de, allez, rêvons un peu des week-ends du mois de septembre, de l'automne prochain, qu'on peut envisager.
Oui, pour Ouigo, on propose à nos clients de se projeter encore plus de juillet jusqu'à décembre, avec des tout petits prix à 10 €, et donc de pouvoir préparer les vacances de la Toussaint, les week-ends de septembre, avec des tout petits prix.
Est-ce que vous avez imaginé une organisation différente en lien avec la situation sur les destinations, la fréquence, ou en l'état, c'est un plan de transport, comme vous le dites dans votre vocabulaire, qui est habituel pour un été, ou est-ce qu'il a fallu anticiper quelques évolutions en termes de destination, de fréquence?
Non, on a vraiment l'objectif de contribuer à la relance du tourisme en France d'ailleurs, et même dans les pays européens, puisque ce sont avec nos filiales TGV vers l'Italie, vers les Pays-Bas, vers la Suisse, etc., qu'on pourra réserver ces billets. Donc on est sur un plan de transport qui est habituel. Alors évidemment, et en particulier pour les trains internationaux, on a encore des incertitudes, même pour cet été, personne ne peut le dire aujourd'hui. Mais en tout cas, on se base sur un plan de transport nominal.
Donc là, effectivement, on peut se projeter dans les semaines et même dans les mois qui viennent. Pour en revenir à la période actuelle, d'ailleurs, là, le plan de transport, il vient d'évoluer, hein, des trains supprimés dès aujourd'hui, bah, tout simplement en réaction aux nouvelles mesures annoncées par le gouvernement ces derniers jours.
Et en réaction surtout au fait que nos clients ne réservent pas aujourd'hui.
Bien sûr.
On a 65% de clients en moins par rapport à la même période de 2019. Et donc, c'est normal qu'on adapte la circulation des trains. Et ce, de façon très, très fine, en fonction des axes, en fonction des destinations de nos clients. On a essayé d'adapter en se gardant des marges importantes, évidemment, mais de s'adapter, évidemment, à ces restrictions de circulation qui font qu'on a, encore une fois, 65% de nos clients en moins.
Peut-être un point pratique pour ceux qui se posent la question d'un voyage en train, justement, notamment en passant par Paris ou par une autre gare dans un département confiné. C'est possible? Qu'est-ce que, voilà, pour le week-end de Pâques, notamment, qui approche, quel type de déplacements sont possibles?
Oui, il est totalement possible, sans formalité spécifique, de pouvoir aller d'une zone verte, on va dire, à une autre zone verte en passant par Paris, donc qui est aujourd'hui en zone rouge, entre guillemets. Donc ces correspondances par Paris sont possibles sans aucune formalité. Évidemment, quand on part d'une zone rouge vers une zone verte ou inversement, là, on sait, nos clients connaissent les attestations nécessaires.
Et sur la période de vacances là, dans ce mois d'avril, alors je vais me répéter, encore une fois, des incertitudes, c'est compliqué de se projeter. Est-ce que, comme on le vit depuis quasiment un an, vous êtes beaucoup dans la dernière minute pour les réservations? Est-ce que malgré tout, il y a des choses notables là, encore une fois, peut-être pour ceux qui ont un peu plus de visibilité dans certaines régions?
Non, on est sur des niveaux très bas et effectivement avec un niveau d'anticipation qui est extrêmement, extrêmement faible. On a pour certains trains plus de la moitié des billets qui sont réservés dans les 8 derniers jours. Donc sur des périodes qui sont assez clés, hein, pour tous nos clients, comme le week-end de Pâques ou les vacances de Pâques, c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas du tout de visibilité.
Il n'y a pas eu de TGV sanitaire là cette fois-ci, ça avait été presque annoncé, envisagé en tout cas. Ça n'a pas pu être mis en place cette fois-ci?
C'est le gouvernement qui décide, évidemment, et ça, qui, ouais, en fonction du nombre de malades à transférer, prend cette décision. Nous, on est complètement à la disposition du gouvernement et des décisions qui pourront être prises. Donc, on est prêt, mais évidemment, c'est pas à nous de décider si ces TGV doivent être mis en place ou pas.
Eh bien, écoutez, merci à vous, Alain Krakowicz. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Voyage SNCF. Merci d'avoir été ce soir sur Europe 1. À demain, 22h20.
Merci beaucoup, Aurélien Fleuron. On vous retrouve également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Vous parlerez soins du corps, un secteur qui a beaucoup évolué depuis le début de la pandémie. Votre invité, Édouard Falguière, le directeur du groupe Guinot Maricor, le leader en France du marché de l'esthétisme.
C'était l'invité éco avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Restez avec nous dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. A tout de suite sur Europe 1. 22h28 sur Europe 1, et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. On commence avec cette question. Il attend quoi? Titre Libération avec pour illustration un Emmanuel Macron assis et bras croisés. Hôpitaux submergés, épidémie hors de contrôle, classe qui ferme, vaccination poussive. Si Emmanuel Macron n'entend faire aucun mea culpa, la violence de la troisième vague place notamment l'Île-de-France au bord de la catastrophe, écrit Le Quotidien. Les Échos s'intéressent pour leur part aux États-Unis. Relance le projet choc de Joe Biden, titre le journal économique. Le président américain présentera mercredi son programme de modernisation des infrastructures du pays, routes, ponts, mais aussi énergie renouvelable. Et l'investissement s'annonce colossal. 3 000 milliards de dollars pourraient être injectés dans l'économie, ce qui fait craindre des risques de surchauffe. Les Échos qui nous apprennent également que la crise favorise le passage de flambeaux dans les entreprises familiales. Le Covid a agi comme un électrochoc en imposant une digitalisation à marche forcée, de nouveaux modes de travail et la quête de sens, autant de notions avec lesquelles la jeune garde est plus à l'aise. Voilà pourquoi depuis le début de la pandémie, de nombreux dirigeants ont accéléré la transmission de leur entreprise à leurs enfants. Ouest France revient sur le jugement du procès Mediator. Servier condamné, les victimes attendaient plus, titre Le Quotidien régional. Je vous en parlais dans le journal, le groupe pharmaceutique a été condamné à payer 2,7 millions d'euros d'amende pour Irène Frachon, la pneumologue Bloomberg qui avait révélé le scandale. C'est un jugement historique, mais elle estime que les sanctions sont, je cite, modiques. On termine avec l'édito de la Nouvelle République, édito qui analyse la décision du gouvernement d'accoler le nom de Valéry Giscard d'Estaing à celui du musée d'Orsay. Enfin pour Denis Domin, pour qui ce geste répare une très vieille injustice qui jusqu'ici écartait l'ancien président de cette reconnaissance officielle. Le purgatoire s'achève ici, dans un hall de gare devenu conservatoire des arts du 19e siècle, Orsay-Giscard donc, correspondance pour Pompidou-Beaubourg, Chirac-Branly et Mitterrand-Bercy et les autres, interroge Denis Domin. Charles de Gaulle a son étoile. En revanche, pour Sarkozy et Hollande, l'éditorialiste sèche. Concernant enfin Emmanuel Macron, Jupiter, nous cherchons un truc en élévation qui fasse paratonnerre aussi, conclut l'éditorialiste de la Nouvelle République.
C'était les Unes du lendemain avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Comment allez-vous ?
Eh bien ma foi, tout va bien.
Tant mieux, 3921 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne qui débute donc maintenant et ce jusqu'à 1h du matin.
Exactement, et nous on se retrouve dans une petite demi-heure pour de l'info encore. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.